Chapitre 3, nous allons commencer une nouvelle série d'études et où nous allons prendre différents personnages bibliques, pas forcément les grands prophètes, mais différents personnages bibliques qui sont mentionnés dans la Bible et voir ce que nous pourrons tirer de leur vie. Donc Jean chapitre 3, et le personnage, c'est Nicodème. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus. Hein, Nicodème. Nicodème est mentionné seulement 3 fois dans la Bible et uniquement dans l'évangile de Jean. Il semblerait que Jean soit celui le seul qui connaisse l'histoire de Nicodème. Surtout, c'est l'histoire de Nicodème avant Pentecôte. On ne sait pas trop ce qui s'est passé après. La tradition chrétienne, dirait que c'était un homme très riche, mais parce qu'il s'est identifié à Christ, il a tout perdu et il est mort dans une pauvreté extrême. Nicodème était un membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était cette institution religieuse que Rome reconnaissait. Elle pouvait se prononcer sur tout ce qui avait à faire avec la loi juive. Hein, donc, c'est pour cela que, bien sûr, quand on lisait tout à l'heure, eh bien, c'est eux qui ont décidé, et ils ont dit à Pilate, ils ont dit, nous, on a décidé qu'il doit mourir, selon notre loi. Maintenant, comme nous ne pouvons pas exécuter, c'est toi qui vas exécuter pour nous, mais c'est nous qui avons décidé. Hein, eux, ils pouvaient se prononcer et Pilate devait suivre quand il s'agissait de la loi juive. Donc Nicodème, c'était quelqu'un qui siégeait sur ce corps. Il était membre du Sanhédrin. Comment est-ce que Jean le connaît? Ce qu'on voit à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 18, on voit que finalement, Jésus est pris dans le jardin de Gethsémané, Jésus est arrêté et on l'entraîne dans la maison du souverain sacrateur. Et on arrive là et Jean, apparemment, il connaît, il y a de la famille là-dedans, il a des connaissances. Et en fait, c'est lui qui fait rentrer Pierre. Pierre ne connaît personne. Mais Jean parle au portier et puis dit oui, il peut rentrer. Et c'est pour ça que Pierre se retrouve dans la cour. Et où il a renié le Seigneur. Hein. Donc, apparemment, Jean avait de la famille bien placée. Et donc, il avait accès à des informations que les autres disciples n'avaient pas. Hein. Je suppose que s'il évoque Nicodème, c'est que d'abord, le nom de Nicodème est connu. Hein, et puis, à l'époque. Et deuxièmement, c'est que la personne de Nicodème apportait une certaine crédibilité au récit de Jean. Hein, donc, c'est quelqu'un. Donc, oui, on mentionne. Oui, bien sûr, il y a la femme samaritaine. Oui, bien sûr, il y a l'aveugle-né. Bien sûr. Mais il y a aussi quelqu'un qui est de l'intérieur, de parmi les ennemis de Jésus. Hein, donc ce sont tous ces témoignages et donc ça porte de la crédibilité à l'évangile de Jean. Et apparemment, Nicodème, c'était quelqu'un qui semble avoir suivi un peu tout le ministère de Jésus, parce qu'on le trouve au chapitre 3, on le trouve ensuite au chapitre 7, et puis on le retrouve au chapitre 19. Donc il est là tout le long et il suit, donc il voit ce qui se passe, même s'il est du côté de l'ennemi, mais il suit Jésus. Hein. Et donc c'est un personnage assez intéressant. Premièrement, nous sommes au chapitre 3 et c'est la première fois que Nicodème rencontre Jésus. Il semblerait qu'il a quand même des petites connaissances. Il n'est pas, c'est pas un inconnu qu'il rencontre. Il a déjà fait son enquête et là il veut le rencontrer personnellement. Il nous dit au verset 1, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. Premier, il vient de nuit, certains veulent prêter toutes sortes de choses, on va donner l'explication la plus positive, et on va dire, il est venu parce qu'il voulait discuter personnellement avec Jésus. Il y a plein de monde et beaucoup de distractions, il est venu de nuit, et puis il voulait rencontrer Jésus parce que peut-être qu'il avait des questions personnelles. Parce que les pharisiens en général, lorsque vous lisez les Évangiles, les pharisiens en général arrivaient à plusieurs, et puis c'était toujours pour lui poser des pièges, et en même temps, ils voulaient, il les posait devant la foule, pour que quand Jésus est piégé, eh bien, il ait l'embarras de la foule. Hein, donc les pharisiens qui avaient des mauvaises intentions arrivaient, et on voit leur méthode, c'est toujours à plusieurs, et puis c'est deux, quand il y a plein de monde, et puis qu'ils lui posent ce qui doit être une colle pour Jésus. Bon, ça n'a jamais réussi. Mais là, il vient tout seul. Hein. Donc, on se dit qu'il a des bonnes intentions et qu'il a des questions particulières et une question brûlante. Alors, il commence, il engage la conversation. Il dit « Rabbi », qui veut dire « maître », « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Voilà, il l'aborde comme ça. Jésus ne dit pas que ce n'est pas vrai, mais Jésus ne se laisse pas trop influencer par les compliments et les belles introductions. Lui, il n'est pas là pour ça. Jésus passe directement au sujet, qui n'a aucun rapport avec cette parole de Nicodème. Nicodème n'a même pas posé la question. On peut imaginer, puisque c'était un docteur de la loi, que certainement il avait une question par rapport à la loi de Moïse, peut-être il avait une question par rapport aux traditions. Il avait été formé pour cela. Hein, c'était la discussion toujours des pharisiens et des scribes, ces discussions-là. Jésus, il ne perd pas le temps là-dedans. Et il va directement aux besoins de Nicodème. Donc, certainement que Jésus, et c'est ça qui est extraordinaire, et ce qui est beau, c'est que Jésus peut regarder une personne, il voit à l'avance, il sait si là, ça c'est un bon investissement, même si ça pourra prendre du temps, parce que là avec Nicodème, ça prendra quand même plus de 3 ans. Mais il voit l'intérêt, et même s'il n'y a pas de décision tout de suite, mais il travaille. Et vous savez, c'est ce qui nous rassure. Et c'est pour ça que je m'arrête là pour le dire, parce que nous sommes tous des tempéraments assez différents. Hein. Il y a des gens que, ils ressentent, ah oui, c'est bon. Et puis, ils y partent tout de suite. Et il y en a d'autres que, ils attendent que la tête suive. Bon, on est très différents des uns des autres. Mais vous savez, le Seigneur, ça ne le dérange pas. Hein? Et il veut, parce que lui, il veut que du vrai. Il ne veut pas des chrétiens du riz. Hein? Si vous me donnez du riz, je deviens chrétien. Si vous ne me donnez pas de riz, je n'ai pas de chrétien. Non, il ne veut pas ça. Il veut des vrais. Que des chrétiens qui le sont par conviction. Parce que quand nous le sommes par conviction, même si ça a pris du temps pour arriver jusque-là, mais ça tient bon. Et donc, tout de suite, et c'est là où on a ce verset 3, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, donc d'une naissance naturelle, est chair, et ce qui est né de l'esprit, donc d'une naissance spirituelle, est spirituel. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, Nicodème, il est un peu perdu là. C'est un docteur de la loi, mais tout d'un coup, il se trouve avec un sujet qu'il n'a jamais entendu. Et puis, Jésus lui dit, il n'y a aucun accès au royaume de Dieu, sinon par ce moyen-là. Lui, il avait été formé, hein, lui, il avait été à l'école du judaïsme, il avait été formé de croire que, puisqu'il était né d'Abraham, un descendant d'Abraham, donc juif, pur juif, et qu'en plus, il portait dans son corps le signe de cette alliance avec Abraham, la circoncision, C'était le sentiment qu'avaient tous ces Juifs. Eh bien, parce que nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes le peuple choisi, eh bien, nous, on est bons. Hein. Et c'était ça la pensée, c'était l'éducation. Et vous savez, même de nos jours, on trouve un peu cette pensée-là. Si tu es né dans une famille chrétienne, si tu as été baptisé petit, écoute, tu es chrétien et puis tu es bon. Hein. Après, il suffit de confirmer par la suite, mais sinon, tu étais dans la bonne voie déjà. On t'a placé là-dedans et puis, tu ne dois pas sortir de là. Mais Jésus est en train de dire à Nicodème, sans démolir, il dit, mais écoute, Nicodème, écoute, je vais te dire quelque chose. Le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître là-dedans. Alors, Nicodème, pour lui, c'est une pensée nouvelle, là, ça sort de nulle part. Et il ne comprend pas. Il avait peut-être entendu parler de Jean-Baptiste, hein, parce que c'était quelqu'un quand même qui suivait toutes les situations, et il avait peut-être, et Jean-Baptiste avait dit, prêchez la repentance, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste avait dit, moi je ne suis pas le Christ, mais celui qui vient après moi, c'est le Christ, et suivez-le. Et lui et moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de feu et de l'esprit. Et Nicodème, bon, c'est des paroles qui sont là, mais ces paroles sont étrangères à l'éducation qu'il a reçue. Et je comprends, même si, il n'était pas un païen de Babylone ou d'autre chose, il était juif. Et donc il croyait la parole de Dieu, l'Ancien Testament, il croyait. Et c'est souvent, on peut être encore aujourd'hui, on a été élevé avec certaines valeurs du christianisme, et on a toutes ces choses. Mais Jésus dit, le seul moyen de faire partie du royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. De naître, il dit, il n'y a aucun autre moyen. Bon, l'avantage de naître, la naissance, c'est un moyen gratuit d'arriver. Hein. On est arrivé dans ce monde, on n'a rien payé, hein, on est né, on s'est retrouvé là. Hein, et le monde est obligé de... Hein, si vous avez eu un petit enfant, un bébé naître, votre premier bébé, il a bousculé votre vie, il a fait sa place. Et puis là, il fallait traiter avec lui, hein, on ne peut pas faire autrement. Et bien aussi, Jésus dit, mais c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Hein, il n'y a pas de privilégié, il n'y a rien là. On est là et on y est pour de bon. Et il dit, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, certains vont interpréter l'eau, dès qu'ils voient l'eau, ils pensent baptême. Je dirais que plutôt l'eau, ce serait, hein, parce que il faut être, quand on interprète un passage biblique, il faut toujours l'interpréter pour que ça s'harmonise avec le reste de la Bible. Et nulle part ailleurs est-ce que le baptême est considéré comme un moyen de salut. Hein, il y a un enseignement genre pédobaptisme, le baptisme d'enfant, baptême d'enfant, qui est circulé, c'était pratiqué parce qu'on s'est dit que ces enfants, eh bien, s'ils n'étaient pas baptisés, si jamais ils mouraient avant leur baptême, eh bien, ils étaient perdus. Parce que le baptême sauve, mais le baptême ne sauve pas. Hein, et donc, nous ici, nous ne sommes pas pédobaptistes, nous sommes crédobaptistes. Hein, donc c'est le baptême des croyants. Hein, donc, et c'est ce que nous voyons pratiquer lorsque vous lisez les évangiles, les actes des apôtres, hein, ce qui était pratiqué, c'est que les personnes ont cru et ensuite ils ont été baptisés. Et donc comme on prend les choses un peu littéralement, parce que si on ne prend pas la parole de Dieu littéralement, alors pourquoi on ne la prend pas littéralement, hein? Si on ne prend pas un certain passage littéralement, alors donnez-moi une bonne raison pour ne pas le prendre littéralement. Hein, c'est comme quand quelqu'un m'écrit une lettre, je prends littéralement d'abord. Si je ne comprends rien, après je dis, mais qu'est-ce qu'il a derrière? Mais on commence toujours. Hein, donc tant que ça peut être compris de manière littérale, eh bien c'est une règle d'interprétation que nous appliquons. On prend les choses telles qu'elles sont. Donc ici, l'eau, eh bien, pourrait, parce qu'on se voit toujours, c'est croire et on croit à la parole. Hein, si on recevoit, la parole serait cette eau, hein, la parole de Dieu. Hein, parce que la parole et l'esprit, c'est toujours la parole et l'esprit qui font une œuvre spirituelle. Là, Jésus lui dit, écoute, Nicodème, il dit, mais je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne saisis pas. Et Jésus prend un exemple, au verset 8, il prend un exemple et lui dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit, ça, c'est pas un problème de ne pas comprendre, il y a d'autres choses dans la vie qu'on ne comprend pas. Tu ne sais pas comment ça arrive, tu ne sais pas comment d'où ça vient, mais il dit, bon, il y a des choses comme ça dans la vie qui sont comme ça, mais tu vois les effets, et donc tu dis que c'est vrai. Hein, et donc là, lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur, et puis l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu commence à agir, et l'on voit la personne transformée, il dit, mais il y a quelque chose. Hein. Si vous avez un bâton que vous plantez dans le sol et puis tout d'un coup vous voyez apparaître des feuilles, vous dites, ah tiens, là, il y a de la vie. Donc, le Seigneur dit, écoute, c'est pas plus compliqué que cela. Mais Nicodème, bon, il avait l'habitude de réfléchir et Dieu n'est pas contre le fait qu'on réfléchisse. Mais il dit, tu sais. Ne te limite pas à ce que tu peux comprendre, parce que ça va être très limité. Il continue à parler ici au verset 11, il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il dit, moi, les choses terrestres, déjà, tu ne comprends pas tout. Alors, comment est-ce que tu vas comprendre quand je te parle des choses que Dieu fait, les œuvres célestes? Il dit, personne n'est monté au ciel, verset 13, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, écoute, moi, je peux te parler de ce qui se passe là-haut. Moi, je peux te dire, fais-moi confiance, je viens de là-haut, je viens du Père et je te dis ce qu'il y a à savoir. Fais-moi confiance. Et nous, on n'a pas plus d'options que d'être pragmatique et de dire, ben, et si je le crois, qu'est-ce qui arrive? Si c'est pas vrai, il n'arrivera rien. Et si c'est du vrai, il arrivera quelque chose. Hein, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que les hommes font leurs recherches et tout. Hein, j'ai une idée. Ben, essaye là, si ça marche. Et si ça marche pas, tu tires une conclusion, mais tu l'essayes. Et... Donc le Seigneur est là pour nous aider. Il dit, écoute, voilà, Nicodème, Dieu vient comme un enfant, tout simplement comme un enfant. Crois, accepte. Et puis, et une fois que tu donnes accès à cette œuvre de Dieu dans ton cœur, tu lui donnes cet accès, et bien vois ce qui est les résultats, vois ce qui se passe. Le peuple d'Israël se croyait sauvé parce qu'ils étaient élus, ils avaient été choisis. C'était le peuple choisi de Dieu. Il nous dit dans Deutéronome 7, verset 6, « Car tu es un peuple pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Il a dit, « Je t'ai choisi pour être un... » Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été choisis qui sont sauvés. Il a dit, je vous ai choisi, c'est de parmi vous que je choisirai des hommes qui porteront ma parole, c'est de parmi vous que naîtra le Sauveur. Je vous ai choisi pour une fonction particulière. Oh, il le dira, il leur dira, oui, c'est pas parce que vous étiez meilleurs que les autres, et ce n'est pas parce que on est les détenteurs de la parole qu'on est sauvés. C'est par le fait de croire. Hein, et encore aujourd'hui, peut-être on peut avoir ces idées, mais le Seigneur dit non, c'est basé sur la foi. Et c'est par la foi que nous pouvons venir à Dieu. Alors, Nicodème, il a quand même encore des problèmes. Alors, le Seigneur est patient avec lui, il l'aide, hein, il comprend, et chacun de nous, hein, soyez assurés de la patience du Seigneur. Hein, il marchera avec vous, il vous suivra, celui qui cherche trouvera. Et alors il dit Nicodème, au verset 14, il dit Nicodème, écoute, je te rappelle un récit de l'Ancien Testament. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit, Nicodème, tu connais bien cette histoire qui vient de Nombre. Et les enfants d'Israël avaient désobéi et Dieu a envoyé des serpents ardents, venimeux. Et donc, dès qu'ils ont commencé à mourir, eh bien, ils ont crié, ils ont dit, Moïse, on a mal fait, pardonne et enlève ces serpents. Mais cette fois-là, eh bien, Dieu a dit à Moïse, il a dit, écoute, tu prends un poteau que tu lèves au milieu du camp et tu feras un serpent d'airain, semblable aux serpents qui sont en train de causer la mort. Tu prendras un serpent d'airain et tu le mettras sur ce poteau. Et puis tu diras aux gens, chacun qui placera sa confiance dans ce commandement et qui regarde vers ce serpent, eh bien, aura la vie sauve. Et ce qu'il faut comprendre de cela, c'est pas que Dieu proposait une idole ou une image, parce que c'était interdit. Il dit, tu ne feras point d'image taillée. Hein, donc, c'était pas ça. Mais ce que le serpent représentait, c'était justement le mal. C'est ce qui causait leur mort. C'était le symbole de leur mort qui était là. Et il dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de là où vous êtes, c'est de vous tourner vers ce symbole, et par cet acte de foi, cette confiance en ce commandement que j'ai dit, celui qui regardera vers ce serpent aura la vie sauve, eh bien, il sera sauvé, il ne mourra point. Et Jésus reprend cela et dit, tu sais Nicodème, comme Moïse, hein, donc il dit, essaie de comprendre, fais le parallèle, il dit, comme Moïse a élevé le serpent, eh bien, il arrivera le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, eh bien, il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice de Dieu. Sur la croix, Jésus est devenu le serpent, le péché, notre péché. Et après, il a dit, et quiconque regarde vers lui aura la vie sauve. Bien sûr, vous pensez au serpent du jardin d'Éden, Satan qui. C'est ce serpent. Mais là, c'est Jésus qui est devenu. Il est devenu ce qui causait notre perte, le péché. Et Jésus, il est devenu sur la croix. C'est pour ça qu'il y a un moment où Jésus est obligé de dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est sûr. C'est la preuve qu'il est devenu notre péché. C'est que Dieu était obligé, parce que Dieu ne regarde pas le péché. Il s'est détourné de lui. Et Jésus, pendant un moment, eh bien, il est devenu notre péché, il a pris sur lui notre péché, il est mort à notre place, afin que nous puissions nous tourner vers lui et être délivrés de la morsure de notre péché. Et Jésus dit, Nicodème, écoute, c'est pas plus compliqué que cela. C'est exactement le même principe. Bien sûr, vous comprenez Nicodème qui a été éduqué pendant des années, hein, parce qu'il était un homme quand même d'un certain âge, et on ne change pas comme ça, en une nuit, comme ça, on change d'idée. Mais ça a dû travailler dans son cœur. Mais il y a un verset, j'arrive au verset 16, hein, et c'est là le verset que j'espère que chacun d'entre vous connaissez par cœur, il faut le mémoriser, c'est en une phrase, c'est le résumé de tout l'évangile. Verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, peu importe votre état, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous avez subi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, Nicodème, tout est là. Mets ça dans ton cœur et médite. Médite sur chaque mot. Pense à chaque mot. Chaque mot est important là. Et dit, avec ça, même si tu n'avais aucun autre verset de la Bible, avec ça, eh bien, ça te permettra de regarder vers la croix comme tu dois regarder et naître de nouveau. Et je ne sais pas comment Nicodème est parti ce soir-là, il ne le dit pas. Parce que là, tout d'un coup, ça s'arrête. Et puis, je ne sais pas si Nicodème est parti tout triste, comme le jeune homme riche qui était venu voir Jésus, qui a dit « Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Et Jésus lui a donné réponse, et puis lui, il partit un peu triste. Il n'était pas prêt à recevoir. Il sentait qu'il y avait du vrai là-dedans, il sentait qu'il y avait quelque chose, mais faire le pas, c'était un peu difficile. Mais ça, il y avait quelque chose dans son cœur, il y avait une œuvre qui se faisait dans son cœur, et soyons patients avec Nicodème, comme le Seigneur est patient avec nous. Et donc continuons maintenant au chapitre 7. Donc Jean chapitre 7, et là, c'est carrément quelque chose que personne ne pouvait savoir, sinon Jean, qui avait accès aux choses internes. Donc, il y avait eu des discussions, qui était le Christ, est-ce qu'il était vraiment le Christ, et puis Jean disait, ouais, mais lui, il vient de Galilée, Jésus, le Christ, il devait naître à Bethléem. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il est réellement né à Bethléem. Et donc, au verset 45, on avait envoyé des huissiers pour arrêter Jésus, parce qu'on a envie de le mettre à mort. Ce qui dérangeait, je pense, ce qui dérangeait surtout, c'est le fait qu'ils ne reconnaissaient pas leur autorité. Hein, vous savez, quand quelqu'un croit avoir de l'autorité et puis vous ne le respectez pas, ça le dérange. Hein, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Donc 45. « Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme !» Ah, leur défaut, c'est qu'ils ont écouté. Vous savez, normalement, les huissiers, ils n'ont pas de cœur, hein, même de nos jours. Et il a un ordre, il doit le faire, il doit l'exécuter, et il ne se laisse pas trop influencer par les émotions. Hein. Ce n'est pas parce que les gens crient, tout ça, ils pleurent, et parce qu'il y a des petits-enfants qu'on ne les met pas dehors de l'appartement. Hein. C'est pareil aujourd'hui. Mais ces hommes-là, ils ont entendu parler Jésus, et ils disent, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas l'amener. Il dit, parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, mais est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des juifs ou des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Verset 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ? Examine et que tu verras de Galilée ne sort point de prophète. » Comprenez la situation là. Nicodème, c'est quelqu'un qui, dans son cœur, il y a quand même un petit quelque chose qui le tire vers Jésus. Mais il n'est pas prêt à le dire. Peut-être que c'est un travail qui se fait, il y a une sensibilité, mais il n'est pas encore là. Et alors, c'est le genre de... Il fait comme s'il va dire quelque chose de juste. Il dit, mais écoutez, bon, nous voulons faire ce qui est juste, et on ne peut pas condamner quelqu'un sans qu'il paraisse, et puis on lui pose des questions, qu'on l'interroge. On ne peut pas faire comme ça, juste condamner sans qu'il comparaisse devant le Sanhédrin. Et c'était une parole tout à fait juste et tout ça. Mais bon, c'est le genre de choses, vous savez, vous connaissez assez la politique et tout ça, c'est le genre de choses qu'on dit aux gens. Mais entre nous, on ne le dit pas. Hein, vous savez, il y a une différence. Hein, vous vivez dans le même monde que moi. Des fois, il y a des choses qu'on dit quand on... Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire quand on est devant les gens, on respecte, on n'est jamais raciste devant les gens et tout ça. Mais quand on est entre nous, avec des gens qui ont la même pensée, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein, vous connaissez, vous avez déjà vu ça, vous l'avez vécu. Et Nicodème, lui, il dit ça, mais parmi les gens qui, normalement, sont contre. Il dit non, mais si tu étais dans la foule, tu pourrais dire ça, mais quand tu es avec nous, il dit non, non, il faut le condamner. Qu'est-ce que toi aussi tu t'es laissé influencer? Et bien, là on le reprend, alors que c'est un chef de parmi eux, mais il n'est pas d'accord avec eux, et donc on le reprend. Et vous savez, peut-être ça vous est arrivé aussi, d'être dans une situation où vous entendez des gens faire des réflexions sur la Bible, sur Dieu, sur le christianisme et les choses. Et puis vous êtes là, et puis vous n'avez pas déclaré que vous êtes chrétien, vous êtes croyant, vous n'avez rien dit. Donc vous les êtes là un peu embêtés parce que ça vous dérange que ces gens disent ces choses-là. Et vous dites, oui, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là, est-ce que... Et là, il regarde, il dit, mais bon, toi aussi, tu es chrétien. Si on est quelqu'un qui s'est déclaré, les gens ne sont pas étonnés qu'on dise. Et qu'on... Mais si on a essayé d'être un chrétien caché, secret, tout ça, puis après, là, on est embêté de devoir dire quelque chose. Et à peine si on dit quelque chose un peu neutre, tout de suite, ils nous condamnent, ils reconnaissent. Et Nicodème se trouve un peu dans cette situation-là. Et peut-être aussi vous avez vécu cette situation. Et Nicodème, il est incommodé, là. Et c'est vrai, et peut-être vous aussi, vous l'avez dit. Alors, pour éviter, une fois vous avez dit un petit quelque chose et pour lui tomber dessus, alors maintenant je ne dis plus rien. Et oui, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Et c'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, je dis, écoute, quand tu rentres quelque part, tu te mets, déclare-toi. Quand tu te déclares, ils apprécient pas, mais au moins ils sont pas surpris. Mais quand tu essaies de faire un peu le chrétien en camouflage, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et toi, tu ne progresses pas, et puis eux, ils te tombent dessus, et tu peux rien dire, et tu es obligé de voir, d'entendre des choses qui sont pas gentilles. Alors, c'est Nicodème, il se trouve dans ces situations difficiles. Il n'a pas pris de décision quand il a rencontré Jésus. Il a reporté. Et après dans son cœur, il y a quelque chose pour Jésus, mais publiquement, il est avec les Sanhédrins. Et il est embêté. C'est une situation vraiment pas confortable. Hein. Mais ça continue comme ça. Jusqu'au chapitre 19. Et on arrive au chapitre 19. Chapitre 19, Jésus est crucifié. C'est la fin du chapitre qu'on a lu tout à l'heure. On arrive au verset 38. Au verset 38, donc Jean 19, verset 38, dit « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. » Parce qu'on avait appris que Jésus était mort, ça y est, il avait rendu l'esprit. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. « Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. » C'était une fortune pour avoir ça. Et ils prirent le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation, parce que le sabbat arrivait, donc il fallait vite le caser avant que le sabbat commence. Parce que le sépulcre était proche. Donc on a vu juste à côté un endroit pour le caser, en attendant que le sabbat passe. Mais il y a deux personnes, il y a Joseph d'Arimathée, qui était un homme connu dans la ville, mais qui a été croyant, mais juif, mais en secret. Mais là, ce jour-là, il se déclare. Mais il y a aussi Nicodème qui apprend ça, qui lui aussi, et il arrive, et il nous dit que Joseph d'Arimathée n'avait pas été présent quand les Sanhédrins ont pris la décision de tuer Jésus. Lui, il était absent. Ils ont pris ça sans lui. Bon, certains, peut-être qu'ils ont fait exprès de le faire sans lui. Mais Nicodème aussi, là. Attends. Mais vous savez, je me demande si Nicodème, tout d'un coup, vous savez, Jésus l'avait dit la première fois, il lui a dit, comme Moïse éleva le serpent, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et cette parole revient, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus suspendu à une croix. Vous savez, tout d'un coup, vous pouvez imaginer ce que ça fait dans son cœur, dans ses pensées. Et tout d'un coup, il dit, tant pis, j'y vais. C'est lui. Je suis convaincu, il n'y a pas de doute. Et il va, il vient avec cette masse de myrrhe qui lui a coûté une fortune, masse d'aloe, de myrrhe et d'aloe, et il vient pour embaumer le corps de Christ. Les quelques femmes qui sont là, qui sont restées près de la croix, eh ben, ils suivent pour savoir où ils l'ont passé, puis ils reviendront après le sabbat. Hein, donc, mais là, Jésus, Nicodème, s'identifie à Christ. Il dit, moi, je suis avec lui. Et il comprend, tout d'un coup, ça devient clair que Jésus, c'est le Messie. C'est celui qui devait mourir sur la croix. Tout comme le serpent avait été suspendu pour sauver la vie des hommes, lui, il est là, suspendu à la croix, c'est pour sauver tous ceux qui se tournent vers lui. Vous savez, le brigand sur la croix, ce n'était pas le dernier à être sauvé. Parce que je pense qu'à l'instant où Nicodème a décidé de venir là, le Christ mort, mais lui, il a reçu la vie. Et il s'identifie à Christ dans sa mort afin de vivre en lui, pour lui dans sa résurrection. Et d'où l'importance que le nom de Nicodème soit mentionné dans l'Évangile, c'est parce que par la suite, les gens connaissent. Ah oui, Nicodème, oui. Ah, c'est ça son histoire. C'est comme ça que ça s'est passé. On savait qui était Nicodème. Et donc, c'était utile que son nom soit donné. Mais vous savez, ce processus de Nicodème, eh bien, c'est le processus que chacun de nous pouvons suivre, plus ou moins. Hein, chacun a son témoignage personnel, mais il y a le moment où j'entends parler Jésus, la parole de Jésus, la première fois dans mon cœur. Et puis après, il y a un travail qui se fait, et puis j'essaie d'un peu négocier de un pied ici, et puis un pied... Mais en même temps, j'aime le Seigneur, et peut-être que vous vous trouvez, et même dans cette situation-là, je suis... Oui, comme Nicodème, je suis dans le Sanhédrin, et en même temps, quelque part, je ne partage pas tous leurs sentiments. Eh bien, la dernière étape, c'est celle où je dis, Seigneur, j'ai compris, tu es mort sur la croix pour moi, et tu n'as pas eu honte, eh bien moi, je n'ai pas honte non plus. Je me déclare, tant pis ce que les gens vont penser. Et Nicodème, il a pris cette position, tant pis pour ce que les gens vont penser. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'est peut-être mal passé, mais il est mentionné comme quelqu'un qui a cru, hein, Nicodème. Et donc, vous savez, c'est à chacun de nous de voir et dire, mais est-ce que je me situe dans le chapitre 3 ? Où je suis encore en train de comprendre la croix. Est-ce que je suis dans le chapitre 7, où je suis un peu un chrétien non déclaré? Ou bien est-ce que je suis dans le chapitre 19, où je me déclare pour Jésus-Christ? Avec ces pensées, je vous laisse méditer. Peut-être que vous avez des pensées que vous voulez dire au Seigneur. Et donc nous allons prendre un moment de silence et vous pourrez dire au Seigneur ce que vous avez à dire. Reconnaître la vérité, il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a dans votre cœur et il n'y a que lui qui a besoin de le savoir. Mais que dites-lui et parlez-lui et dire Seigneur, je me vois dans Nicodème et je me vois à cette étape-là et je veux aller jusqu'au bout avec toi. Après un moment de silence où vous pouvez prier dans votre cœur, parler au Seigneur, après quoi je prierai.